qu'elle a appris. Elle va mépriser ce qu'elle a entendu de Dieu lui-même. Et son premier péché, c'est celui-là. Elle méprise la parole de Dieu. Eh bien, oui, je crois qu'avant la désobéissance qui fait qu'elle saisit, il y a un autre péché, un péché que j'appellerais le premier, le primaire, comme le cancer primaire. Vous savez, celui qui est caché. Et puis, c'est un autre qui se révèle parce qu'il a diffusé ailleurs. Le cancer primaire du péché, c'est le mépris de la parole de Dieu. Le mépris précède la désobéissance. C'est évident. Elle savait, elle connaissait, mais malgré tout, elle a continué à discuter avec le serpent. Malgré tout, elle a continué à être dans la zone interdite. Elle a continué à mépriser la parole de Dieu. L'évangile est simple, clair, comme je l'ai dit. Et quelquefois, souvent, trop souvent, il nous arrive, nous arrivons à mépriser ce que nous avons appris, ce que nous savons, pour mieux accomplir après ce qu'il ne faut pas faire. Mais cela commence par le mépris. Et je pense que c'est un grand péché. Et c'est tellement vrai pour ma vie. J'ai toujours cette tentation sournoise de mépriser la parole de Dieu, c'est-à-dire de ne pas en tenir compte. Et quand je méprise la parole de Dieu, je méprise le Seigneur. J'aimerais que cette pensée, nous puissions repasser, avec cette pensée, nous puissions repasser le fil de notre vie. Et vous verrez, nous arriverons à cette constatation. Là, avant de dire ou de faire, où j'ai méprisé la parole de Dieu. Je savais, pourtant j'ai dit. Je savais, pourtant j'ai fait. Ou je savais, pourtant je n'ai rien dit. Ou je savais, pourtant je n'ai rien fait. C'est pareil, hein ? C'est pareil, hein ? C'est cela le mépris de la parole de Dieu. Vous savez, quand moi, que le peuple hébreu, lorsqu'il est sorti d'Égypte, eh bien, il s'est planté, complètement planté. Et sa faute était grave aux yeux de Dieu, si grave qu'ils sont restés 40 ans dans le désert et que tous ceux qui avaient péché à ce moment-là sont morts sans jamais entrer dans le pays promis. C'est quoi le pays promis pour nous chrétiens ? C'est le ciel. Voilà quelque chose. Et c'était un peuple rebelle, désobéissant dans le désert. Et voilà ce qui est dit dans le livre des Nombres, au chapitre 14. Vous savez, lorsque les espions reviennent chargés de fruits extraordinaires, une grappe de raisin qu'on est obligé de porter à plusieurs, eh bien, ils ont rejeté le plan de Dieu, ils ont rejeté la parole de Dieu. Et dans Nombre 14, 11, il est écrit « Jusqu'à quand me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» Et au verset 23, voilà ce qu'il est écrit « Tout cela ne verront point le pays que je jurais à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. » C'est fort, c'est impressionnant. On pensait que le mépris, bon, des fois ça ne se voit pas. C'est indolore, c'est inodore, c'est quelque chose, voilà. Mais on méprise. Vous vous rappelez de la parabole de Jésus qui parle de ce publicain et de cet homme religieux qui s'avance dans le temple, hein ? Il y en a un qui dit « Oh, je te loue, Seigneur, que je ne suis pas comme le reste du monde. Et il se tourne vers le publicain là avec un tel mépris. Le mépris ferme la porte du ciel. C'est très, très important. Lors de la révolte de Corée, vous savez, Corée a voulu dire un jour, eh bien, pourquoi est-ce que le souverain sacrificateur qui fait le feu, moi je vais apporter mon offrande, je vais présenter à Dieu, vous voyez, etc. Et il y a eu la condamnation qui est arrivée. Et dans le livre donc des Nombres, chapitre 16 et le verset 30, hein, il est parlé de quelque chose qui va être comme une forte condamnation qui va tomber sur ces gens qui ont méprisé la parole de Dieu. Et voici ce qu'il est écrit. « Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Merci d'éteindre votre portable, s'il vous plaît. C'est ma belle-mère, hein, voilà, elle est gentille. Elle est gentille, je lui pardonne. Vous saurez que ces gens ont méprisé l'Éternel. Et vous savez, ça a été terrible d'avoir méprisé l'Éternel. Puisque la terre s'est ouverte et qu'ils sont tombés dans cette faille, et la terre s'est refermée. C'est mépriser Dieu ou mépriser sa parole, c'est extrêmement grave, on va le voir. Cela pouvait aller jusqu'à la mort. Dans Nombre 15, 31, il est écrit dans la loi, Nombre 15, 31, je donne beaucoup de travail et merci de le faire. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement. Celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Est-ce que vous avez remarqué la structure de la phrase ? Ce qui est arrivé en premier, avant de violer le commandement, on méprise d'abord le commandement. Et par là, on méprise l'Éternel. Et on a un processus, on a une progression. Il y a d'abord la méprise, et puis après, il y a le viol du commandement. Et ça, il portera la peine de son iniquité. Lorsque le peuple hébreu a passé le Jourdain, Moïse avait tout prévu. En fait, c'est Dieu qui avait tout prévu, qui avait dit à Moïse, voilà comment ça va se passer. Toi, tu n'y entreras pas. Mais lorsque le peuple sera entré, ils iront sur deux sommets, côte à côte. Vous connaissez ce passage ? C'était au Deutéronome 27 et au verset 16. C'était entre deux montagnes. D'un côté, six tribus devaient monter au sommet, six responsables. De l'autre, six responsables. Au milieu, il y avait la ville de Sichem. Et ils se voyaient de loin. Et d'un côté, c'est le mont Garizim, eh bien, ils sont montés pour bénir. Ils ont prononcé les paroles de bénédiction de Dieu. Et sur le mont Ebal, ils sont montés pour prononcer la malédiction. La malédiction. Et voilà, parmi ces malédictions, celle-ci. Et j'ai l'impression de voir la scène. De loin, vous aviez, sur l'autre montagne, le peuple qui criait fort, hein, qui criait fort, « Honore ton père et ta mère, et tu seras heureux sur la terre », qui est le premier commandement avec une promesse. Et en réponse de l'autre côté, il est dit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère ». Et tout le peuple dira « Amen. » Et en fait, dans ce passage, on voit bien que l'opposition de honorer Dieu, craindre Dieu, être un enfant de Dieu, eh bien, c'est l'opposé, c'est bien mépriser. Et dans ce commandement, celui qui méprise son père et sa mère, même sans lui dire, eh bien, il est maudit du haut de cette montagne. Pour Dieu, le mépris n'est pas acceptable. Regardons une autre histoire de l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 2,17. On va travailler notre Bible parce que ce n'est pas une pensée qui a germé dans ma tête, c'est une pensée qui vient de l'étude de la parole de Dieu, et cela doit nous mettre en éveil, cela doit nous donner d'être encore plus attentifs à ce que le Seigneur veut nous dire. Dans 1 Samuel 2,17, vous savez que les fils d'Élie ont commis des choses effroyables alors qu'ils étaient responsables, qu'ils avaient pris la place de leur père, Élie le sacrificateur. Et ils ont, non seulement ils ont pris dans les offrandes, mais aussi la Bible nous dit qu'il invitait des femmes dans le temple même, enfin dans l'endroit qui servait de temple, pour accomplir des choses ineffables, des choses que je ne citerai pas. Et Dieu va faire un reproche à ces gens. Il va dire, ils se rendent coupables devant l'Éternel d'un très grand péché. Alors on n'est pas là pour mettre, ça c'est plus grand que ça, voler, c'est moins grave que tuer, etc. Vous pouvez, hein, ça c'est la loi des hommes, ça, hein, qui après évalue la gravité des fautes. Mais devant Dieu, pourtant, il méprisait les offrandes de l'Éternel et c'était pour Dieu un très grand péché. C'était très important. Et ça, ce n'est pas passé. Et ça, Dieu ne l'a pas permis. Ce n'est pas passé. Et puis tout de suite après, au verset 30, Dieu dit simplement cela, verset 30, 1 Samuel 2, 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Comme on a vu tout à l'heure, honore ton père ou ne méprise pas, ou maudit soit celui qui méprise. On a vraiment là, ici, la confirmation qu'il y a deux solutions. Soit on honore Dieu, en croyant, en appliquant, en écoutant le Seigneur et en mettant sa parole en action, soit on le méprise. Et le mépris n'est plus quelque chose d'insignifiant, quelque chose qu'on peut laisser dans notre cœur, prendre sa place en disant « Ah, cette parole, ouais, mais elle est dure, cette parole. » Les disciples disaient à Jésus « Oh, ta parole est dure, mais c'est la parole de Dieu. » Et on ne peut pas la mépriser. On ne peut pas la maîtriser. Vous vous rappelez sans doute de ce passage peu glorieux de la vie de David. Lorsqu'un soir, alors que l'armée était au combat, lui, il se reposait dans son palais et il a vu de ses yeux une jolie dame qui se baignait. Vous connaissez ce qui s'est passé, ce péché de David, et voilà que il se marie avec cette dame, j'en ai parlé la dernière fois que j'ai prêché ici. Tout allait bien, mais, Dieu va envoyer son prophète, Nathan. Et dans 2 Samuel 12, 9, regardez le premier reproche que Nathan fait de la part de l'Éternel à David. Dans 2 Samuel 12, 9, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Le premier reproche, c'est ne pas avoir commis l'adultère, c'est ne pas avoir fait assassiner Uri, c'est ne pas avoir menti, c'est de ne pas avoir pris la femme d'Uri. Mais la première chose que Dieu lui reproche, c'est d'avoir méprisé la parole de Dieu. C'est vraiment le fait le plus important. Et je pourrais continuer. Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que j'ai pris assez de versets, assez d'exemples qui nous montrent l'étendue des dégâts que peut faire le mépris dans un cœur? Un cœur, même un cœur comme celui de David. On se demande toujours, mais qu'est-il arrivé à David? Bien, c'est qu'à un moment de sa vie, il a méprisé la parole de Dieu. Et là, je me dis, je me pose la question, mais si c'est si important, pourquoi est-ce que je n'ai jamais pensé à cela? Mépriser la parole de Dieu. Mépris de la parole de Dieu, mépris des hommes de Dieu, mépris des prophètes de Dieu, mépris de ses parents, mépris du peuple de Dieu, mépris du commandement de Dieu, mépris tout ça, c'est le mépris de Dieu. David disait, j'ai péché contre toi seul. Car David savait que son premier péché, c'est d'avoir méprisé la parole de Dieu. Et ça, c'est un péché que l'on fait vers Dieu. Mais ouf, tous les exemples que je vous ai donnés, tout ce que je vous ai dit, c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Ouf, on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Amen. On est sous la grâce. Ouais. Mais parce que nous sommes sous la grâce, nous serons jugés plus sévèrement encore. Oh, pourquoi? J'aimerais quand même qu'on affiche ce Hébreux 10, 28 à 29. Voilà, ce verset Hébreux 10, 28 à 29. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. C'est tout à fait ce que l'on vient de voir. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds, c'est encore un mépris plus grand, le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance pour laquelle il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. L'auteur de cette épître pose la question, mais attention, il y a un risque qui reste. Ce péché, le premier qui est venu dans le cœur d'Ève, il est encore présent, sournois, dans notre cœur. Mais là, on sera jugé plus sévèrement encore. Quel châtiment, la mort! Mais quelle mort! Quelle mort! Il y a pire que la mort, il y a la mort éternelle. Il y a pire que la mort, c'est perdre ce que l'on avait reçu en Christ. Qui aura foulé aux pieds? Je voudrais juste m'arrêter sur ce terme, foulé aux pieds. Il est employé avant dans la parole de Dieu, pas souvent, hein, dans le Nouveau Testament, en grec, il est employé. Alors j'ai marqué katapateo, mais ça me... voilà. Ça ne me renseigne pas trop là-dessus, puisque je ne suis absolument pas grécophone. Je parle français. Amen. Et je remercie le Seigneur parce que vous comprenez tous le français ce matin. Alors que si je vous parlais grec, il y en aurait très peu qui comprendraient. Eh bien, c'est la parabole de la semence. Et c'est la semence, c'est la parole de Dieu que l'on piétine dans cette parabole. C'est le mépris de la parole de Dieu. C'est le piétinement de la parole de Dieu. C'est la graine qui tombe sur le chemin. Et on vient et on marche et on marche et on marche jusqu'à l'écraser. Et on écrase la parole de Dieu. Et on la broie. On en fait une fine. On la connaît, la parole de Dieu. Mais on l'a piétinée. On a continué notre vie. Voilà ce que cela veut dire ici. Ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu. Vous vous rendez compte ce que Jésus a souffert ? Et on va le voir ensemble, et on va revenir à la lecture que j'ai faite pour la Sainte-Seine. Vous vous rendez compte ? Et ça, on le piétinerait. Ça, on n'en tiendrait pas compte. Ça, c'est du mépris. Encore, il aurait mieux valu se lever toute sa vie le poing contre Dieu que d'accepter Jésus et après de piétiner ce qu'on a reçu. C'est plus grave. Vous le croyez ? Amen. Ce qui veut dire que dans mon cœur, il y a une graine. La graine du mépris qui ne demande qu'à pousser. Et je dois tout faire pour l'éliminer. Le sommet du mépris. On a lu tout à l'heure Ésaïe 53 et on a vu cet homme qui va souffrir pour porter nos péchés. Nous savons que c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre interprétation possible. C'est tellement clair. Méprisé et abandonné. C'est-à-dire que c'est un homme de douleur. Il est habitué à la souffrance. Il est semblable à celui dont détourne le regard. Hérode, il est écrit qu'Hérode a traité Jésus avec mépris. Vraiment, il est le méprisé. Et Jésus dira même dans sa maison, dans sa ville, il dira un prophète n'est méprisé que dans son pays. Il a été méprisé, on a même voulu le tuer. Et le psaume 22 nous parle d'un homme, et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Ce méprisé, c'est Jésus. Il a vécu méprisé des siens, méprisé des rois, méprisé de ceux qui devaient l'aimer. Il a porté nos péchés et il a été écrasé, brisé pour nos péchés, pour nos iniquités, nous dit la parole de Dieu, le texte que j'ai lu d'Ésaïe 53. Et il a porté le mépris sur lui. On dit souvent que Christ a été fait péché pour nous, et je peux vous rajouter, il a été fait mépris pour nous. On ne peut pas, c'est le sommet, il a tout porté, il était méprisé et il a pris tous les méprisés sur lui. Tous les mépris, tous ceux qui ont foulé aux pieds la parole de Dieu, tous les moqueurs, tous les blasphémateurs, tous ceux qui ont fait demi-tour, ceux qui n'ont pas été jusqu'au bout, ceux qui ont renié le maître, il a tout pris à la croix. Je pense qu'il a même pris le péché de Judas, mais que Judas ne l'a pas saisi. Il a tout pris à la croix. Il a dit tout est accompli, tout est porté. Et puis, il a été fait mépris pour nous, c'est formidable, c'est extraordinaire. Et puis, il va ressusciter, l'Église va naître. Les premiers disciples vont parcourir le monde remplis du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous apporte alors cette révélation. L'Église est composée d'hommes et de femmes qui sont souvent méprisés. Que c'est étonnant. Que c'est étonnant. 1 Corinthiens 1, 28. Voilà ce qui est écrit. Il avait constaté que dans les églises de l'époque, il y avait peu d'hommes élevés, peu d'hommes et de femmes de distinction. Il y en avait, mais peu. Et il dira, Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. David était le méprisé dans sa famille et Dieu l'a choisi. On n'a même pas pensé à lui. Et il dira, je suis né tout entier dans le péché. Qu'est-ce qui était attaché à David, pour qu'on l'ignore comme ça, pour qu'on le cache, pour qu'on ne le présente pas à Samuel. Eh bien, je ne sais pas. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait voir et lire et étudier là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que dans ma famille, je n'étais pas le meilleur. Parmi mes 9 frères et sœurs, je n'étais pas celui qui méritait. Non. j'étais méprisable. Jésus est venu chercher celui qui est méprisé, celui qui est méprisable. Et au contraire, celui qui se sent grand, celui qui se sent fort, il y a un mot pour dire ça, celui qui est orgueilleux, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Nous avons tous donc conscience de ce qu'est le mépris, parce que nous le reconnaissons pour nos vies mêmes. Nous sommes méprisables. Quelqu'un ne peut pas dire ce matin, je ne sais pas ce que c'est que le mépris. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, il n'a jamais connu l'amour, il dira, je ne sais pas ce que c'est l'amour. Mais je ne trouverai jamais personne qui va me dire, je ne sais pas ce qu'est le mépris. Le mépris, nous savons tous ce que c'est. Oh, j'ai vu ces regards de mépris dans mon travail, lorsque je voulais jouer au ballon, quand j'étais jeune. Oh. J'étais de bonne volonté. J'ai souffert du mépris, mais le pire des mépris que j'ai souffert, je voulais que je vous le dise, c'est quand je me suis méprisé moi-même. Quand j'ai dit, mais tu es capable de faire ça, toi ? Christ nous a sauvés du mépris, nous a délivrés du mépris. Il a enlevé le mépris qui était sur nous. Et il l'a fait sauter. Il a pris ce mépris à la croix. Et ce matin, on peut s'approcher de Dieu en toute liberté, sans orgueil, en disant « mais je suis un enfant de Dieu ». Et on reconnaît que ce n'est nullement notre force, nullement notre volonté, nullement nos actions, mais c'est la grâce de Dieu qui fait que ce matin, je ne suis pas méprisé par mon Sauveur. Ce matin, j'ai de la valeur entre les mains de Dieu. Amen. Nous savons tous ce qu'est le mépris. Et nous savons qu'en Jésus, jamais les yeux de Dieu ne nous méprisera. Jamais. Non. Non. Nous sommes choisis par Dieu. La parole de Dieu nous a été confiée. Mais nous n'en avons pas fini avec le péché. Nous avons toujours cette liberté de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. Il y a toujours en nous ce processus. Le mépris de la parole de Dieu est sournoisement là. Le mépris de Dieu est la première pierre de notre futur péché. Amen. Je répète. Le mépris de Dieu, le mépris de la parole de Dieu, la première pierre de notre futur péché. On commence par le construire en méprisant. Et Jésus a dit, il n'y a pas un iota de la parole de Dieu qui va s'exécuter sans qui va disparaître sans être exécuté par Dieu. Tout a de l'importance. Tout a été inspiré de Dieu pour convaincre, d'abord, mais aussi pour nous garder du péché. Jésus nous a prévenus et il nous prévient encore dans sa parole. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et il y a vraiment un danger, mes amis. C'est dans Luc 16, 13. Et il est question là de l'amour de l'argent. D'accord ? Mais on pourrait le généraliser à tout. Jésus, le péché du mépris est toujours présent et nous devons absolument reconsidérer notre vie actuelle à la lumière de la parole de Dieu. Qu'avons-nous fait de la parole de Dieu ? Qu'allons-nous faire de cette semence qui est tombée dans nos cœurs ? Avons-nous veillé sur la parole de Dieu qui était dans nos cœurs ? Ou avons-nous négligé, méprisé la parole de Dieu ? Pour résister à la tentation qui vient sur le monde. La Bible dit que dans les temps de la fin, il y aura une grande tentation qui vient sur le monde. Je pense qu'elle est déjà là, que nous la voyons, que nous la considérons Il y a une grande tentation, il y a une grande persécution en ce moment. Nous vivons les temps de la fin et il est temps de se réveiller aujourd'hui parce que peut-être demain ne sera pas. Nous n'y serons plus. Le Christ viendra nous prendre. Pour résister à la tentation, alors que faut-il faire ? Il faut faire le contraire du mépris et on l'a lu tout à l'heure, il faut honorer. Dans notre vie, honorons la parole de Dieu. Honorons son enseignement. Honorons ses principes. Honorons ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, comme il est écrit dans le psaume 39, c'est une lampe à mes pieds, sur mon sentier. Une lumière sur mon sentier. Je pense que pour résister, il faut honorer. Honorons la parole de Dieu. Honorons les prophéties. Honorons notre Père céleste. Honorons notre Sauveur. Honorons le Saint-Esprit. Honorons Dieu. Je vous rappelez de ce conseil qui nous est donné ? Ne méprisez pas les prophéties. Honorons les prophéties. Honorons les prophètes, honorons les hommes de Dieu, non pas parce qu'ils sont, mais parce que Dieu est avec eux, honorons Dieu. Car s'opposer contre loin de l'Éternel, c'est souvent s'opposer à Dieu. Que notre vie, que nos pas, que nos décisions, que nos actions, que notre parole soit soumise à la parole de Dieu. Honorons par nos pas, nos actions, nos paroles, le Seigneur bon Dieu, que jamais il trouve dans notre cœur le moindre mépris. Je pense que ce matin, nous avons une réelle chance de mettre un plan d'action contre le péché dans notre vie. Contre la tentation dans notre vie, c'est de toujours honorer la parole de Dieu, de toujours honorer le Seigneur et de ne jamais piétiner, ne serait-ce qu'un seul verset de la parole de Dieu. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur bénira notre vie. Amen. Il bénira notre vie de façon spirituelle. Mais il n'est pas limité, il peut bénir notre vie de façon matérielle, de toutes les façons possibles. Il peut nous guérir, nous sauver, nous laver, nous donner au-delà de toute espérance, si seulement nous honorons le Seigneur avec nos vies, avec notre cœur, avec notre façon d'être et de vivre. Seigneur, il est écrit dans la parole, considérez la fin de ceux qui vous ont annoncé l'évangile. Honorez de tels hommes. Je crois que ceux qui ont été fidèles jusqu'au bout méritent qu'on les honore. Ceux qui sont fidèles aujourd'hui malgré les persécutions, malgré la mort, malgré la maladie, eh bien on doit honorer de tels hommes, de telles femmes. Je crois que ça, c'est formidable aussi, c'est honorer Dieu. Élevons dans nos cœurs le fait d'honorer les gens, non pas par leur réussite, mais par leur fait qu'ils soient fidèles jusqu'au bout. Fidèles jusqu'au bout. Le Seigneur est bon. Je suis sûr qu'il veut nous donner à chacun de faire des progrès, de marcher de progrès en progrès avec lui. Et si nous faisons ces pas sans piétiner la parole de Dieu, eh bien, j'entends encore ce peuple sur le mont Garizim qui donnait les bénédictions, proclamait les bénédictions de Dieu. Amen. Et ces bénédictions de Dieu, elles sont pour nous, elles sont pour ses enfants, ce matin. Je me réjouis d'être enfant de Dieu et je veux goûter à la joie de me nourrir de sa parole et de l'honorer par mes actions, à partir de maintenant, ce que je dis, ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que je ne dis pas, doit être conduit et dirigé par ce sentiment d'honorer mon Dieu et de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Seigneur mon Dieu, voilà, c'était le message que j'avais pour l'Église, pas un message facile. Prêcher sur un péché, c'est jamais facile, Seigneur, mais je sais, c'était un message pour l'Église ce matin. Je sais, c'est un message qui va nous faire du bien et nous permettre, Seigneur, d'aller de l'avant. Seigneur, de mettre, Seigneur, un programme en marche dans nos cœurs afin que résister à la tentation qui vient sur le monde, d'être, Seigneur, sensible à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Alléluia. Merci, Seigneur, car nous savons, Seigneur mon Dieu, que ce n'est ni par la force, Seigneur, ni par un bras quelconque, mais c'est par ton Esprit seulement, seulement, Seigneur, que nous pourrons marcher. À toi soit toute la gloire, la louange. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.